Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien cher Monsieur le Chanoine, chers séminaristes, mes chers amis, aujourd'hui, ce n'est pas un jour ordinaire, puisque nous avons l'honneur de vous avoir, cher Monsieur le Chanoine, pour célébrer cette première messe solennelle. Pour votre aîné dans le sacerdoce, c'est une grande joie et aussi une grande émotion que de voir celui qui fut son acolyte, son puriféraire, son cérémoniaire, gravir les marches de l'autel pour être aujourd'hui prêtre. Vous êtes, cher monsieur le chanoine, un alter Christus. Mais il serait plus juste de dire « ipse Christe ». Cela, désormais, sera votre carte de visite. Une carte de visite dans un milieu bien souvent hostile, même parmi les chrétiens. Lorsque le cardinal Sarah est venu en France présenter son livre « Dieu ou rien », voici ce qu'il disait. Ce que j'essaye de dire dans ce livre, c'est qu'il faut aider l'Europe à retrouver Dieu, l'aider à retrouver son identité. Il est absurde de nier que l'Europe a des racines chrétiennes. De la même manière, on ne peut pas fermer les yeux et dire qu'il n'y a pas de soleil. Cette Europe qui refuse la vie, qui n'engendre pas la vie, qui vieillit, qui affirme aussi qu'un homme n'a pas de sexe et qu'il pourrait choisir. Cette Europe-là se met elle-même en position de faiblesse. Je veux rappeler aux Français qu'ils sont chrétiens, même s'ils ne veulent pas le savoir. Ils ont leur histoire, leur culture, leur musique, leurs œuvres d'art. Le rappeler en priant, en manifestant contre une interprétation irréaliste de la nature humaine, c'est-à-dire la théorie du genre, le dire d'une manière respectueuse et ferme, c'est une œuvre de charité. Si vous laissez votre ami se détruire, vous ne l'aimez pas vraiment. Même s'ils n'aiment pas l'entendre, ils sont chrétiens. Pire, même chez eux, même chez ceux qui le sont, on n'ose pas se déclarer chrétien. J'ai une famille qui m'a adopté. J'ai 3 sœurs adoptives en France. Et quand je me présentais avec mon habit de prêtre, on me disait « enlève ça ». Mais c'est ma tenue. Quand un médecin va à l'hôpital, il n'est pas habillé n'importe comment. Mais il est vrai, c'est Jean-Paul II qui le disait, que des chrétiens sont apostats. Ils ne le disent pas. Ils se prétendent encore chrétiens, mais leur manière de vivre, leurs idées, font comme s'ils n'étaient pas chrétiens. Ces paroles du cardinal font ricocher avec l'évangile de saint Jean que nous avons proclamé, où le Seigneur dit « C'est pour cela que vous n'écoutez point, parce que vous n'êtes pas de Dieu ». Il s'adresse à son peuple qui s'apprête à manger la Pâque par le sacrifice symbolique de l'agneau, sans voir, sans comprendre qu'ils vont sacrifier l'agneau sans tache qui est au milieu d'eux. C'est dans cette ambiance que vous exercerez votre ministère, dans cette réalité où l'orgueil a aveuglé l'homme, le rendant haineux, capable de tuer l'innocent. L'ipse Christe, c'est celui qui est sur la croix. C'est pour cela qu'il peut tenir dans ses mains saintes l'hostie sans tache et la coupe de l'Alliance nouvelle et éternelle. Si l'usage, qui en France est hélas perdu, est de baiser la main du prêtre, c'est parce que le prêtre est l'homme de la croix. C'est parce que vous êtes l'homme de la croix que vous êtes aussi celui de la rédemption qui se manifestera par le pardon donné dans le sacrement de pénitence. Oui, au moment même de la consécration, le sacrifice rédempteur tout entier nous est rendu miraculeusement contemporain. En vertu des paroles consécratrices, le corps se trouve immédiatement posé, et puis sont posés par accompagnement et en même temps le sang, l'âme et la divinité. Il y a le corps ici, le sang là, par concomitance, par accompagnement, là où il y a le corps se trouve aussi le sang et toute la grandeur du Sauveur. Là où est le sang se trouve aussi le corps et toute la grandeur du Sauveur. Vous êtes comme prêtre au service de cette réalité, l'homme de l'Eucharistie. comme disait le grand cardinal Journet, par un double miracle simultané de la toute-puissance divine, l'Eucharistie est constituée comme sacrifice du Christ et comme sacrement du Christ. Le premier miracle concerne le temps, le second miracle concerne l'espace. Le premier miracle est celui par lequel, pendant le moment du temps où se prononcent les paroles de la double consécration du pain et du vin, nous sommes rendus présents, invisiblement, au sacrifice sanglant de la croix, offert une fois pour toutes à Jérusalem par le salut du monde. Voilà l'aspect sacrificiel de l'Eucharistie. Le second miracle est celui par lequel le corps glorieux du Christ est rendu présent sur chacun de nos autels, en tel lieu de notre espace. Voilà l'aspect sacramentel de l'Eucharistie. Ces deux miracles sont si étroitement conjoints qu'on pourrait les désigner comme les deux faces distinctes d'un seul miracle. C'est en étant ce que vous êtes, ipse Christe, que vous ferez grandir, cher monsieur le chanoine, des âmes dans la foi et l'espérance par la charité. Ici, à Saint-Jean-Baptiste, vous avez une communauté qui se nourrit de cette réalité et de tout ce qui en découle. Vous êtes un peu comme dans un îlot de la foi portée par l'espérance où règne la charité. Certes, il y a toujours les scories de nos péchés personnels, mais une communauté qui vit des sacrements et des sacramentaux peuvent justement avancer vers l'objet de notre espérance, la vie éternelle. Et ici, je voudrais vous faire observer quelque chose. Si vous regardez bien les fidèles, vous les voyez inquiets, inquiets de leur sainteté. Et il y a une belle chose qui s'est passée durant le mois de mars, notamment avec nos équipes de Domus Christiani. Ils ont tous fait à tour de rôle leur week-end de retraite. Cela représente 21 foyers. Ça fait du monde. Ça fait beaucoup de grâce. Ça fait que nous sommes sur un chemin de sanctification. Il nous faut donc persévérer. Cet îlot de foi que nous trouvons ici, à Saint-Jean-Baptiste, il faut, cher monsieur le chanoine, en faire un peu partout. C'est notre mission. Il vous faudra donc enseigner pour former les intelligences, aimer pour que règne la charité sans laquelle rien de bon peut se faire. Rien par force, tout par amour, dirait saint François de Sales. Ces îlots de la foi, c'est l'avenir de l'Église. Dans un temps où le prêtre semble disparaître, il faut développer ces îlots, comme nous y appelait Benoît XVI. Cela demande des sacrifices, des choix de vie, dont vous serez le stimulateur. Mais attention, vous serez parfois adulé, mais aussi méprisé et détesté. Il faudra vivre cette réalité en union avec vos fidèles qui connaissent aussi cette réalité. Ce n'est pas toujours facile d'être prêtre et de porter la soutane quand on vous traite publiquement de pédophile ou de pédéraste. Ça m'est encore arrivé hier. Ce n'est pas toujours facile pour les familles, pour les jeunes, de vivre leur foi dans un monde hostile à Dieu. Il faut du courage, de la persévérance et de la fidélité pour tenir la réalité de la croix. Ces îlots de la foi permettent cela d'une manière non figée, mais vivante et joyeuse. Pour ce faire, il y a une attitude à avoir, c'est de toujours partir de Jésus pour garder une force et une sérénité, non à la manière des yogistes, mais des chrétiens. Avec le pape Paul VI s'adressant aux familles, je voudrais vous livrer cette prière. Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus. L'école de l'Évangile, une leçon de silence d'abord. Que renaisse en nous l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit. En nous qui sommes assaillis par tant de clameurs, de tracas et des cris dans notre vie moderne, bruyante et hypersensibilisée. Ô silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la disposition à écouter les bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres. Enseigne-nous le besoin et la valeur des préparations de l'étude, de la méditation, de la vie personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret. Cher Monsieur le Chanoine, merci pour avoir répondu à l'appel de Dieu. Peut-être qu'ici, dans cette chapelle, il y a des jeunes qui sont appelés aussi au service de Dieu. Vous exercez votre ministère actuellement au séminaire dans le service de l'économa, qui est une tâche un peu ingrate parce qu'il vous faut trouver le nerf de la guerre pour la formation des futurs prêtres, et cet aspect est toujours un peu pénible et pas toujours bien compris des fidèles. Vous êtes aussi professeur, et les échos que j'ai me permettent de vous dire que je regrette d'être si vieux et de ne pas être votre séminariste. Et hier, nous faisions une petite plaisanterie. Vous savez qu'il faut 7 ans pour être prêtre. Il y a 2 ans prêtre, à 2 ans près, cela va faire 3 générations de prêtres que je vois sortir de Griffiano depuis que j'ai été ordonné. Je pourrais presque être votre arrière-grand-père. Enfin, je voudrais vous remercier, vous, notre cher diacre, pour que toute notre communauté aujourd'hui puisse vous porter dans sa prière afin que vous deveniez un bon prêtre selon le cœur de Dieu et que vous puissiez revenir bientôt pour célébrer une première messe. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.